Le vicaire des Ardennes, cinquième partie. Argaud, maître du bâtiment, disposa tous ses hommes comme il le fallait pour manœuvrer, et prenant le sifflet, il commanda la manœuvre et fit marcher le vaisseau, du banc de quart où il était assis. Lorsque tout son monde fut occupé, il mit à sa place le matelot avec lequel je l'avais entendu parler, et se dirigea vers le mât où mon père, garrotté, rongeait son frein. Sans se montrer ni arrogant ni respectueux, Argaud, s'adressant à monsieur de Saint-André, lui dit « Capitaine, l'homme que vous avez puni si sévèrement est maintenant le maître, il vous remplace, et vous êtes où était Argaud ?» Mon père ne répondit point. « Écoutez, poursuivit Argaud en lui jetant un regard farouche, vous voyez quel homme je suis, le ciel ne m'a pas fait pour rester matelot. Jurez-moi sur l'honneur d'oublier tout ce qui vient de se passer. Revenus en France, obtenez-moi le grade de lieutenant. Vous le pouvez, puisque je viens des États-Unis, et qu'en disant que j'avais ce grade, vous me le ferez donner. Alors, en 2 secondes, je vous salue contre-amiral, et nous voguerons vers la France. Vous me donniez tout à l'heure 3 minutes, moi, je vous en donne 6. » Là-dessus, Argaud, s'asseyant sur un câble, tira sa pipe, battit le briquet et se mit à fumer. Mon père ne répondit point. Argaud, ayant fini sa pipe, la remit tranquillement dans sa poche et s'en alla au banc de quart. Je n'ai pas besoin de dire que durant toute cette scène, j'avais été aux côtés de mon père. Cependant, j'étais libre. Quant à ma pauvre Mélanie et à Madame Hamel, elles furent renfermées dans leur cabinet, et je ne les vis que lorsque le dénouement de cette fatale aventure arriva. La plus vive inquiétude m'agitait. Mais à qui pouvais-je m'adresser? Il ne m'était pas permis de quitter le Tillac. Argaud profita de la présence de monsieur de Saint-André, qui mettait toujours les rebelles en danger, pour constituer le règlement qui devait les guider dans leur piraterie. Il fut nommé le capitaine, et fit lui-même des promotions qui contentèrent tout l'équipage. Lorsque les choses eurent une apparence de hiérarchie, il assembla le conseil pour délibérer. Il vint signifier aux officiers et à monsieur de Saint-André, avec beaucoup de calme et de modération, le résultat des discussions de l'assemblée. On offrait aux officiers qui voudraient pirater la conservation de leur grade. Tous refusèrent. Alors Argaud leur annonça qu'on allait les déporter à la première île déserte que l'on rencontrerait. Cet arrêt fut exécuté. Au moment où l'on descendit mon père, il parut se souvenir d'une chose fort importante qu'il voulait me communiquer. Argaud refusa de me déporter avec monsieur de Saint-André et l'envoya à terre sans permettre qu'il me parlât. Il me cria de la chaloupe une phrase que je ne pus entendre. Elle finissait par ces mots: mon fils. Le conseil de ces pirates s'était occupé de nous. Lorsqu'on fut en vue de la flotte de la Havane, dans les courants de laquelle on entra, l'on mit, par l'ordre d'Argaud, la chaloupe en mer, et l'on m'y descendit avec Madame Hamel et la tremblante Mélanie. Par une singulière délicatesse, Argaud nous remit la cassette et l'argent de mon père. Il donnait à ce moment l'ordre de l'attaque, et le matelot qui nous jetait ses effets laissa tomber à la mer les papiers de monsieur de Saint-André. La perte de ces papiers me cause aujourd'hui les plus vifs regrets, car ils auraient peut-être éclairci tous les mystères dont j'ai trouvé ma naissance entourée, lorsque j'ai pu réfléchir et que j'ai connu de quelle importance de pareils papiers étaient dans les affaires pour assurer l'état d'un homme dans le monde. Quand nous nous trouvâmes tous trois dans cette chaloupe au milieu de la mer, ayant des provisions pour environ 3 jours, venant de perdre notre père et n'espérant plus le revoir jamais, le désespoir s'empara de nous. Néanmoins, tel est le caractère de ceux qui aiment avec ivresse que dans les situations les plus désolantes et sur le bord même de la tombe, ils trouvent des consolations. Et aux amants seuls, il est permis de n'être jamais tout à fait malheureux. « Je ne tremble plus, puisque me voilà seule avec toi, » me dit Mélanie, « et je mourrai joyeuse, puisque nous mourrons ensemble. Tiens, Joseph, tu me prendras dans tes bras, et quand on trouvera nos corps ainsi réunis, on dira « Ce sont deux amants », et l'on nous mettra dans une même tombe. » Madame Hamel, résignée à tout, rangeait la cassette, l'argent, les provisions, et elle était absolument la même qu'assise dans son fauteuil de canne à l'habitation. Je tâchais de gouverner la chaloupe de mon mieux en la guidant obstinément vers un point. C'était par là que j'avais vu fuir les vaisseaux du convoi de la Havane. Nous entendîmes la canonnade de la bataille. Mille idées affligeantes m'assaillaient. « Qu'as-tu donc à t'attrister ?» me dit Mélanie avec un charmant sourire. « Nous n'avons qu'à nous laisser aller. La mort nous prendra quand elle voudra. »« Tiens, Joseph, garantis-moi la tête. Je ne veux pas que l'on me trouve morte avec un visage hâlé. » Deux, trois jours se passèrent et nous commençâmes à ménager nos provisions. Enfin, elles disparurent. « Songez, mes enfants, nous dit Madame Hamel, qui n'avait presque rien mangé, songez qu'à la dernière extrémité, c'est moi que vous tuerez. » Elle prononça ces paroles avec une simplicité, une tranquillité d'âme qui nous étonnèrent encore plus que sa proposition. Il y avait deux jours que nous n'avions mangé, nous ne disions plus rien. Je voyais avec effroi les joues de Mélanie pâlir. Lorsque nous aperçûmes à l'horizon les voiles blanchâtres d'un navire. « Tiens » dis-je à ma sœur, et nous nous livrâmes à la joie. C'était un vaisseau danois qui se rendait à Copenhague. Il nous recueillit. Il ne nous arriva pas d'autre accident. Nous allâmes en Danemark pour couper au plus court et venir à Paris. Nous trouvâmes à Copenhague une famille française qui eut mille bontés pour nous. Et quelque temps après notre arrivée en Danemark, nous partîmes pour la France. Enfin, nous entrâmes, un beau matin, à Paris, après avoir semé sur les routes tout l'argent que l'on devait obtenir de voyageurs tels que nous. Toutes ces aventures et ces traverses, les dons et notre voiture, les doubles postes et les éternels pourboires, enfin nos mémoires d'aubergiste, etc., ne nous diminuèrent pas beaucoup notre trésor. Nous avions, en arrivant à Paris, 200 000 francs à toucher sur un banquier, et sur nous 2 ou 3 000 francs en or. Chapitre 11. J'arrive à l'époque la plus douloureuse de ma vie. J'avais alors plus de 16 ans. Mélanie n'en avait que 13, mais formée par le climat de l'Amérique et développée par l'exercice, elle annonçait au moins 17 ans. Tous les feux de l'amour embellissaient ses yeux si doux, ses lèvres de grenade et ses joues en fleurs. Ses longs cils donnaient à son regard une expression de mélancolie qu'elle démentait souvent lorsque ses yeux se portaient sur moi. À chaque instant, les souvenirs les plus séducteurs viennent m'assassiner en m'offrant toutes ces douceurs, qui s'évanouirent comme un songe. Il me semble encore être au milieu de cette grande et majestueuse allée des Tuileries lorsque nous y vîmes pour la première fois. « Qu'elle est belle » entendais-je répéter de tous côtés. Mélanie me disait que les femmes m'admiraient. Je lui disais qu'elle était l'objet des hommages des hommes. Quel triomphe ! Quelle joie ! Que nous fûmes heureux ! En arrivant à Paris, notre premier soin fut, comme bien l'on pense, de chercher un endroit écarté, champêtre et pittoresque, dont la solitude et l'ombrage pussent nous donner une faible image de notre belle Amérique. À force de soins et de démarches, je trouvai dans la rue de la Santé une sorte d'hôtel abandonné, dont les jardins et les alentours sont ce que j'ai vu de plus gracieux à Paris. Une fois que nous fûmes établis dans cet endroit, le problème d'une vie heureuse fut une seconde fois résolu pour nous. Moment trop court. Mes premières réflexions me démontrèrent que, comme chef de famille, je n'avais aucune des notions nécessaires pour diriger une fortune que je crus immense, lorsque je la proportionnais à la simplicité de nos goûts, à la modicité de nos besoins. En effet, pour deux êtres qui s'aiment, et dont le plus grand plaisir est de se voir l'un l'autre, on conviendra que notre fortune était colossale. Mais au bout d'un mois seulement, je m'aperçus qu'il était urgent d'apprendre et de pouvoir être quelque chose. Les usages, les mœurs de la ville, vinrent s'interposer entre la naïveté de nos âmes et la décence du siècle. Je sentis que je devais être prêt à défendre nos biens et nos personnes, enfin que l'instruction était la sauvegarde de l'homme en société. Dieu, quelle scène charmante d'étonnement! Quel rire! Combien d'observations naïves lorsque Mélanie et moi nous devinions quelque chose dans les mystères sociaux! Hélas, souvenir cruel, fuyez, laissez-moi. Alors, pendant 4 ans, je ne connus d'autre chemin que celui qu'il y a entre la bibliothèque du Panthéon et la rue de la Santé. J'appris pendant ce temps tout ce qu'il convient à un homme de savoir, et je l'appris tout seul, sans maître, par la seule force de mon imagination et aidé par la puissante énergie de mon caractère. J'avais la douce tâche d'instruire Mélanie. Je consigne ici notre aveu mutuel. Ce que nous avons trouvé de plus difficile, ce fut le premier pas, la lecture. Madame Hamel ne concevait pas la folie qui nous avait saisie, et ses plaintes, ses raisonnements nous faisaient sourire. Elle se soumit à notre instruction parce qu'elle crut entrevoir que nous en étions plus heureux. L'instant fatal approche. Ah, je m'arrête. À demain. Il y a une interruption, dit Marguerite. Ah, les pauvres enfants! S'écria le bon curé Gosse. Je devine leur malheur. Monsieur, reprit la servante, entendez-vous comme la pluie tombe par torrent? On va retenir Monsieur Joseph de Saint-André, dit-elle en appuyant sur ce nom, et il couchera dehors. Alors nous pourrons achever l'histoire de ce pauvre jeune homme. Comme la chandelle n'avait pas été mouchée depuis que Marguerite s'était mise à lire, elle s'acquitta de ce soin. Car le bon curé, la bouche béante, l'œil sur le manuscrit, n'y aurait jamais pensé. La gouvernante se moucha, remit ses lunettes et continua. Avant de commencer cette histoire de douleur et d'éternelle peine, je ne puis me refuser à montrer celle que je regardais comme mon épouse chérie. La voyez-vous assise contre une fenêtre, à côté de Madame Hamel? Ses yeux sont baissés sur le fichu qu'elle se brode, mais à chaque instant elle les relève sur moi, et son regard commence à désirer de plus vives délices que les chastes baisers dont le temple du Val terrible fut témoin. Elle jette souvent les yeux sur le tableau, ouvrage de mes mains, dans lequel cette scène charmante est représentée, entourée de tout le luxe des productions de l'Amérique. Chacun de ses mouvements révèle une grâce que l'on ne croit pas avoir connue. Sa pose virginale n'exclut pas le naïf aveu des désirs d'une jeune fille de 17 ans. Sa tête est doucement penchée, et ses blonds cheveux sont disposés avec une élégance qui séduit. Le bout de son petit pied se montre sous une longue robe. Elle sourit, et la Vierge, dont le col est paré d'une croix noire, a surpassé le sourire de Vénus. « Ah, c'est toi, ma sœur. Tu parles. »« Joseph, » me disait-elle alors, « nous sommes trop heureux. Il nous arrivera quelque malheur, comme à Polycrate, auquel le poisson rapporta la bague que ce tyran de Samos avait jetée pour conjurer les caprices de la fortune. « Nous sommes chrétiens, ma sœur, » ai-je répondu. « Joseph, les cérémonies par lesquelles on se marie dans ce pays-ci sont bien autres que les simples serments que nous nous sommes jurés. Et d'où sais-tu cela ? De Finette, ma femme de chambre, elle va se marier. J'imagine, Joseph, que nous sommes aussi peu instruits sur tout cela que nous étions ignorants sur les sciences. » « Oh, Joseph, il y a certainement quelque chose que tu me caches. » Ces paroles, prononcées avec la naïveté de l'enfance, me firent réfléchir. Elle prit l'expression de ma figure pour l'expression du chagrin. « Va, » dit-elle. « Joseph, je sais que tu m'aimes et que tu ne m'as jamais rien caché. » Elle vint s'asseoir sur mes genoux, me jeta ses bras d'ivoire autour du col et me couvrit de baisers. Je les sens encore. Il me brûle les lèvres. T'aurais-je fait de la peine ? Grand Dieu, Mélanie, que dis-tu ? Il me semble voir encore Madame Hamel se réveiller et sourire. « Pauvres anges, savez-vous combien vous êtes heureux ? » demanda-t-elle. « Oh oui !» répondit Mélanie. « Le visage de mon frère est pour moi toute l'Amérique. » Ici, avant d'écrire la phrase suivante, je rappellerai que je suis l'enfant de la nature, et que, bien qu'initiée aux vaines délicatesses du monde, je n'ai jamais pu concevoir qu'il y eût de la honte à s'avouer, à manifester les mouvements d'âme que la nature a mis en nous. Ma sœur était de même, et je n'hésite pas à prononcer anathème à ceux qui rougiraient de la naïveté de Mélanie. Depuis longtemps, je sentais en moi les atteintes de ce sentiment que la nature a posé dans notre âme pour la conservation de ses œuvres. Ce que ma sœur venait de dire me montrait que, chez elle aussi, tout se développait. Les idées vagues qui roulaient dans ma tête finirent par devenir plus vagues, et je pensais à tout ce que Mélanie racontait des cérémonies du mariage. Alors je commençais mon droit. Il y avait, je crois, 8 jours que les cours étaient ouverts. J'ouvre mon code. La fatale prohibition. Les 2 fatales lignes me frappent à mort. Et le code pénal me montre le crime. Je cours aux éclaircissements. Nature, religion, ordre social, tout s'accorde. Et notre amour est incestueux. Je regarde à mon cœur et j'y trouve l'image de ma sœur, gravée comme celle d'une épouse. Toutes les jouissances célestes que j'avais rêvées s'évanouissent. Devant moi se découvre la profondeur d'un immense abîme et la mort est au fond. Alors la rage me saisit et je sortis de la maison en courant, comme si j'eusse craint que les feux de Sodome me tombassent une seconde fois du ciel pour nous dévorer. Un lion m'aurait déchiré, je ne l'aurais pas senti. J'étais furieux au point de ne plus connaître le temps, les lieux, les usages. Je courus comme un insensé et ne m'arrêtai que devant une grande maison où une foule immense se pressait. Un homme m'offre un morceau de carton, me demande de l'argent, je lui en donne et je suis le torrent. Je suis assis, serré, et je me déchirai la poitrine. Elle était en sang. On joue devant moi Phèdre. À la scène de la déclaration, je me trouve mal. Et quand Phèdre s'accuse et veut descendre aux enfers, mes voisins m'entraînent. Je rentrai chez moi furieux, ivre. Je n'avais plus rien de l'homme. Le lendemain, j'étais calme, pâle, triste, abattu. Pendant la nuit, la philosophie du chrétien m'avait apparu. L'homme de la nature ayant joué son rôle, celui de l'homme du monde, de cet homme habitué à la dissimulation, aux peines, aux douleurs, allait commencer. Heureux si, lorsque je passais sur le pont neuf, ma fièvre m'eût suggéré de me précipiter dans les flots. À table, Mélanie me sourit. Je détourne les yeux. Elle me parle. Je tâche de ne pas entendre la douceur de ses paroles de miel. Oh, tourment ! Oh, tourment ! Si j'ai écrit pour moi, qu'au moins je mette ici, à cette place, un avis aux âmes qui auront quelque ressemblance avec la mienne, et je ne sais si je dois les en louer ou les en plaindre. Sachez, cœurs grands et sensibles, sachez, vous que la vue du malheur attendrit, vous qu'une larme d'une femme fait frissonner, sachez que dans une passion, même légitime, il y aura tout autant de malheur que dans la mienne. L'ordre social est la boîte de Pandore sans l'espérance. Nous sommes des êtres finis, il ne peut y avoir pour nous de bonheur infini. Et les âmes qui le rêvent et le poursuivent n'embrasseront jamais qu'une ombre. Lorsque je revins à moi, je me mis à sophistiquer. Et en cela, chacun reconnaîtra la marche de toutes les passions humaines. En quoi ? Me suis-je dit, ma passion est-elle criminelle ? En rien ! Aucune voix secrète ne nous a arrêtés. Et si nous nous sommes aimés ainsi, c'est que le Seigneur l'a voulu. Rien n'arrive dans l'univers que par son ordre. Il n'a pu vouloir notre malheur. L'histoire nous apprend que les Égyptiens épousaient leurs sœurs. » Et de là, mettant tous les récits des voyageurs à contribution, je m'énumérai tous les pays où cette coutume avait lieu. Enfin, et ce fut l'argument le plus solide, enfin, s'il n'y a eu qu'un premier homme et qu'une première femme, où le fils épousa la mère, où le père épousa ses filles, où les frères épousèrent leurs sœurs. Ce que Dieu a permis dans un temps ne peut être criminel maintenant. Ces raisonnements et une foule d'autres me consolèrent quelque temps. Mélanie oublia le chagrin passager que j'avais éprouvé. Elle ne m'en demanda pas compte, et nous nous livrâmes à toute l'ardeur de l'amour. Mais il était dit que je boirais jusqu'à la lie du calice. En effet, un jour que, triste et mélancolique, je réfléchissais à cette bizarre défense, la raison vint briller dans mon âme comme l'éclair qui donne la mort. Admettant que mon amour avec Mélanie ne soit point criminel, et que nous nous abandonnions à ses douces étreintes, dis-je, la société refusera toujours de nous unir, et sous peine de la déshonorer, je ne puis l'aimer d'amour. Dès ce moment, une sombre mélancolie s'empara de toute mon âme, et elle s'en empara pour toujours. Je résolus de combattre courageusement ma passion et de la contenir dans mon sein, en domptant les ardeurs de l'enfer. Car, par une singulière fatalité, ce fut au moment où je sus que je ne pouvais plus aimer Mélanie que les désirs les plus terribles vinrent me tourmenter. Mais, usant de cette énergie brûlante qui me consume, je résolus de l'appliquer au combat que j'allais avoir à soutenir. Détournant tristement les yeux lorsque ma sœur me peignait sa tendresse par un regard, je me mis à la fuir. Mais cette fuite avait des symptômes d'amour que Mélanie apercevait. Tout ce que je lui disais n'en était pas moins toujours touchant, et d'autant plus attrayant que mes paroles se paraient des accents de la mélancolie, et ma langueur se décelait dans tout. Quittant la maison, j'allai m'asseoir sur une hauteur dans la campagne, et là, en proie aux accès de cette maladie de l'âme, je cherchais à endormir mon cœur dans de funèbres méditations. Les sentiments tumultueux dont j'étais agité ressemblaient au murmure des bois. On les entend, mais on ne peut les décrire. Chose incroyable! Je trouvais de la douceur dans mes peines, et quelque chose de voluptueux se glissait dans mon âme. Moi, le plus tendre ami, enfin, le frère de ma sœur, je craignais de lui parler et de la voir. Ma main tremblait en touchant la sienne, et ce frémissement n'était plus celui de la volupté. Chaque jour, Mélanie redoublait ses caresses. Elle m'en accabla en s'apercevant qu'elle trouvait des occasions moins fréquentes. Enfin, elle finit par ne plus douter que mon cœur ne renfermât un chagrin profond. Mais la véritable cause ne pouvait jamais être devinée par son âme naïve. Alors, sa sollicitude, son tendre amour, lui firent imaginer tout autre chose. Elle ne me parla point d'abord de ma mélancolie, parce qu'en même temps que je connus mon crime, il s'éleva dans son cœur un sujet de méditation qui vint altérer les roses de son visage. Mélanie, à force de consulter Finette, s'était éclairée sur des mystères en qui elle vit d'abord la cause de mon trouble. La pudeur que ces découvertes avaient éveillée en elle l'empêcha de m'interroger, et aussi de s'inquiéter d'une mélancolie qu'elle éprouvait comme moi. Les témoignages de son amour devinrent moins vifs, mais plus tendres, moins emportés, mais plus délicats. Aussitôt que je quittais un siège, elle s'en emparait, et rêvait là où je venais de rêver. Elle m'épiait, elle attendait mon retour, et lorsque j'étais dans un appartement, elle venait écouter à la porte le bruit de mes pas. Lorsque je peignais, elle prenait son ouvrage et se contentait de me voir, sans prononcer une seule parole. Un jour, en me retournant brusquement, j'aperçus ses yeux mouillés de larmes qu'elle n'eut pas le temps d'essuyer. À cet aspect, un trait, un coup de poignard me perça le cœur. Elle croit que je la dédaigne. Elle gémit sur ma barbarie sans se plaindre. Lorsqu'elle vit que ses larmes m'attendrissaient, elle quitta son ouvrage, je quittai le mien, et elle vint s'asseoir sur mes genoux en passant ses bras autour de mon cou. Et m'embrassant à plusieurs reprises, elle s'écria en sanglotant « Joseph ! Joseph !» Son sein qui se gonflait ne lui permit pas d'en dire davantage. À ces accents déchirants, je frémis de notre danger, et j'eus encore bien plus lieu de frémir lorsque, relevant un peu sa tête qu'elle cachait dans son sein, elle me regarda en souriant des yeux et des lèvres. « Joseph, reprit-elle, je t'aime et je crois être aimée. Je suis belle et je suis ton épouse. D'où vient, dit-elle en hésitant, que tu ne m'avoues pas tous tes chagrins ? Tu souffres, je le vois. Tiens, mon frère, il y a entre nous bien des sentiments nouveaux que nous nous taisons mutuellement. Pourquoi me fuis-tu? Pourquoi ne me regardes-tu plus? Tu m'as privé de mon bonheur. Ah, Mélanie, tu ne sauras que trop tôt tout ce que je souffre. Non, je veux le savoir sur le champ, pour apaiser tes douleurs. Je sais que je le puis. Mélanie, la guérison de mon mal n'est pas entre des mains mortelles. Quel est ce mal? Que sens-tu? Voyons, dis-le-moi. Et se balançant mollement, elle se mit à caresser mes cheveux. Sa figure attentive et curieuse cherchait à lire dans mes yeux. Puis, s'apercevant de mon embarras, elle s'écria en riant « Joseph, j'ai appris que les amants se faisaient des cadeaux. Tu ne m'as encore rien donné. » Tout change sur la terre, lui répondis-je, et je ne puis rien t'offrir qui ne soit périssable. Tu as une chaîne d'or à ton cou, je la veux, s'écria-t-elle en rougissant. Elle s'empara de ma chaîne et la mit autour de son cou. Maintenant, reprit-elle, je veux te faire présent d'une chose qui restera toujours à toi tant que tu vivras. Là-dessus, appliquant ses mains derrière sa tête, elle la prit, l'attira et déroba sur mes lèvres le plus ardent baiser que femme puisse donner. « Mélanie, m'écriai-je en fureur, je ne veux pas que tu m'embrasses ainsi. » La pauvre enfant, honteuse, rouge, baissa la tête et se mit à pleurer. Mon âme chancela. Je vins à ses côtés, je l'embrassai sur le front, et lorsqu'elle leva la tête, elle vit mon visage sillonné de larmes. Alors elle me dit « Si nous avons pleuré ensemble, il n'y a point de mal. Mais écoute-moi, Joseph, il faut nous marier, n'attendons pas plus longtemps. Vois ce que la société exige de nous et qu'il n'y ait plus rien entre nos caresses. » À cette parole, je regardai Mélanie d'un air hébété. Je fondis en larmes et, gardant sa main dans la mienne, nous restâmes longtemps sans rien dire, livrés l'un et l'autre à des réflexions bien différentes. Hélas, quelle tâche j'avais à remplir! Il fallait donc que j'instruisisse ma sœur de toutes les barrières qui nous séparaient. À cette idée, je quittai sa main, je sortis et j'allai me promener dans la campagne, croyant que l'air rafraîchirait mon sein embrasé. Chapitre 12. Comment oser dire à ma sœur « Séparons-nous, notre amour est criminel. » Comment s'y prendre pour ternir sa vie, faire évanouir son bonheur et la rendre malheureuse pour tout le reste de son existence? Plusieurs fois j'ouvris la bouche pour lui parler sans le pouvoir. Un jour je la conduisis sous un saule pleureur et là, assis, je lui pris la main. L'attitude extatique de cette vierge du Corrège, l'amour qui brillait dans tous ses traits avec l'attente du bonheur suprême, me glaça la langue, et je me contentai de la contempler en silence, dans un triste ravissement. Enfin, m'étant convaincue que je ne pourrais jamais lui parler de notre crime éternel, un soir, versant des larmes, je me mis à mon secrétaire, et dans le silence de la nuit, je lui écrivis ce qui suit. « Oh, ma sœur, je ne puis que te donner ce nom. Hélas, c'est de la main de celui qui t'aime comme jamais on n'aimera que doit partir le trait mortel. C'est ton frère qui va te dire « Meurs, Mélanie. Jusqu'ici, notre vie fut un songe. En voici le réveil. Nous nous adorons. Nos âmes se sont touchées sur tous les points. Nous nous aimons de tous les amours à la fois. Nous ne pouvons vivre l'un sans l'autre. Il faut mourir. Nous sommes au milieu d'une mer de plaisirs et de voluptés. Il en est d'autres dont l'attente est un des plaisirs les plus vifs. À côté de cette prairie riante de la vie, loin de ce parterre émaillé de fleurs, il est un lieu sauvage, un aride désert. C'est là qu'il faut aller. En un mot, il faut nous fuir. Et nous fuir, n'est-ce pas mourir ? Depuis 2 mois, l'enfer est dans mon cœur. Depuis 2 mois, je sais que notre amour est criminel. Oui, Mélanie, la religion, les lois et le monde l'ont ainsi ordonné. Si dans nos cœurs une voix secrète nous dit que nous n'en serons pas moins vertueux en enfreignant toutes ces lois, il n'en sera pas moins vrai que tu ne seras jamais à moi légitimement. En lisant ce mot, vois combien de malheurs nous sommes venus chercher à Paris. Ah, pourquoi ne sommes-nous pas restés dans les vastes forêts du Nouveau Monde ? Nous aurions été heureux. Ainsi, Mélanie, il faut faire taire tous nos désirs. Il faudra que tu ne me regardes plus. Nous devrons nous bien garder de nous parler. Voile tes blonds cheveux, apaise le feu de tes yeux, ne déploie plus les grâces d'une taille enchanteresse, ne prononce plus ces mots si doux, avec des inflexions de voix si enivrantes et qui me vont au cœur. De mon côté, je t'éviterai, si je le puis. Comme 2 rochers sans verdure qui sont séparés l'un de l'autre par un torrent impétueux qui roule dans un abîme sans fond, nous vivrons en présence l'un de l'autre sans pouvoir nous toucher. Car, ma sœur, je n'ose t'écrire qu'il serait nécessaire de nous fuir pour toujours et de ne plus nous voir. J'espère que nous pourrons vivre à côté l'un de l'autre, sous la garde d'une conscience sévère qui dirigera tous nos mouvements, et que notre précieuse innocence restera pure comme la neige du Val terrible. Nous l'emporterons dans la tombe, et nous irons recevoir là-haut la récompense de notre martyr. Il ne nous restera plus que le triste bonheur de nous voir. C'est au milieu de cette nuit, c'est pendant que tu sommeilles, que je t'adresse les adieux de l'amant. Avec le jour, va renaître le frère. Maintenant, je te regarderai comme l'ombre d'une personne chère, et chaque souvenir, chaque objet qui nous peindront ce que nous fûmes, seront comme les lettres de l'inscription d'une tombe. Heureux si la mort vient nous emmener de bonne heure. Adieu, fille chérie. L'espérance que je te voyais cultiver, les plaisirs que tu rêvais, tout s'est évanoui. Nous allons végéter comme les arbres en hiver, et cette saison sera, pour nos cœurs, la seule saison. Ah, Mélanie, en traçant ces mots, il me semble que mon âme, que ma vie m'abandonne, et je ne trouve des forces que pour chasser mes pleurs. Hélas, je te proposerai de mourir si la religion ne nous le défendait. Lorsque j'eus écrit cette lettre, il me sembla que l'on venait de m'ôter un manteau de plomb de dessus les épaules. Je sortis de ma chambre, j'entrai dans celle de Mélanie. Cette vierge céleste dormait du sommeil de l'innocence. Sa pose était gracieuse, et lorsque j'arrivai près d'elle, elle murmurait mon nom d'une manière si tendre que je sentis naître les désirs les plus invincibles. La tentation était trop forte pour pouvoir y résister longtemps. Je déposai la lettre sur sa table et je m'enfuis sans oser la regarder une seconde fois. Dans quelle effrayante position je me trouvais lorsqu'il fallut, le lendemain, me rendre dans la salle où nous déjeunions. J'allais affronter la douleur par moi-même excitée et revoir ma sœur instruite du crime qui s'élevait entre nos 2 regards. Ah, qui n'a pas passé par de tels chagrins ne connaît pas tout ce que le cœur de l'homme peut enfanter d'angoisse. Elle vint. Elle était riante et son doux visage n'annonçait aucune inquiétude. Elle n'a pas lu ma lettre, me dis-je. Et un sentiment de compassion me poussait à l'aller brûler. Mélanie l'avait lu. Cette charmante créature ne concevait pas une telle prohibition et refusait d'y croire. Son sourire angélique ressemblait à celui d'un grand géomètre à qui l'on apporterait un petit problème à résoudre. Ainsi, la perfection de cet être adorable ne me fit grâce d'aucune douleur. Cette scène, ses discours et l'étonnement, le chagrin que je redoutais, cette première larme, il me fallut tout essuyer. Nous étions dans le salon avec Madame Hamel. Mélanie s'approcha de moi et me dit « Mon frère, il faut que tu sois fou. Ta lettre m'a chagrinée, parce que j'ai pensé en la lisant que tu avais été bien triste, mais sois certain que tu as mal compris les lois. Je suis sûre qu'elles font un devoir de ce que tu appelles un crime. » « Mélanie, je ne t'ai rien écrit qui ne fût vrai. » Elle commença à me regarder avec inquiétude. « Ne serait-ce pas que tu en aimes une autre? Ta pauvre Mélanie ne serait-elle pas assez belle ?» Et les larmes lui vinrent aux yeux. « Ah, ma sœur, m'écriai-je, comment un pareil soupçon est-il entré dans ton âme? Pour la première fois de ta vie, tu m'as causé de la peine. » « Comment, Joseph, nous serions criminels en nous aimant ?» À ces mots, la bonne Madame Hamel déposa ses lunettes et nous regarda tour à tour. « Mère, reprit Mélanie, le crois-tu ? » ?»« Mes enfants, répondit Madame Hamel, cela me paraît bien inconcevable, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. J'ai peur que Joseph n'ait raison. » Mélanie pâlit. « Quant à moi, je n'osais apporter la conviction. Enfin, je montrai le code. « Ces gens-là, dit ma sœur, ne connaissaient pas la nature. Hélas, Joseph, ils ont beau faire, je ne puis que t'aimer. » Je lui donnai à lire l'article du code pénal. « Eh bien, Joseph, ils me puniront s'ils veulent. » À ces accents, à ce regard, entraînée par une rage que nulle barrière morale ne pouvait arrêter, je la saisis dans mes bras, et l'étouffant presque, je la dévorai, recueillant de longs baisers sur ses lèvres de pourpre et noyant mes remords dans l'océan de volupté où je me plongeais. « Oui, m'écriai-je, oui, Mélanie, tu viens d'atteindre le comble de l'amour, de cet amour qui foule aux pieds toutes les lois. Ah, tu aimes, tu peux le dire avec orgueil. « Soyons criminels, coupables, mais soyons heureux. » À ces mots, elle réfléchit et dit avec tristesse. « Mais non, nous ne serons pas heureux, si pour l'être, il faut abandonner la vertu et renoncer aux cieux. » Aussitôt, elle quitta mes genoux, s'arracha de mes bras et fut se placer sur un fauteuil devant moi. Sa figure animée pâlit tout à coup. Elle n'osa plus me regarder. Madame Hamel était pensive. Mes enfants, nous dit-elle, s'il n'y a que les lois de la terre qui vous empêchent d'être heureux, je ne vois qu'une chose à faire, c'est de monter en voiture et d'aller à Copenhague. Je la regardais en lui disant avec étonnement, et que nous fait Copenhague? Nous y retrouverons, continua-t-elle, notre vaisseau danois qui nous ramènera au Val terrible. Malgré ma profonde douleur, je ne pus m'empêcher de sourire, en voyant que cette bonne femme croyait, parce qu'elle était venue par Copenhague, qu'il n'y avait pas d'autre route pour aller de Paris à la Martinique. « Ma mère, lui dis-je, cela serait bon si le Val terrible était un endroit où l'on fût hors de la vue du Seigneur. Mais il n'en est aucun sur la terre, et nous ne pouvons pas faire ce que la religion défend. » « Mais si vous étiez née dans cette contrée où les sœurs sont obligées d'épouser leurs frères ?»« Nous n'y sommes pas, bonne mère, et nous sommes chrétiens. »« Ah, mes pauvres enfants !» s'écria Madame Hamel, épouvantée. « Mais qu'allez-vous devenir ? Attendez, j'irai consulter l'abbé Valette, mon confesseur. » « C'est inutile, ma mère. J'ai consulté 20 casuistes. Notre amour est incestueux. » « Incestueux, mon enfant? Mais c'est un crime, ça !» pauvres enfants !» Et elle nous regarda d'un œil attendri. Mélanie n'avait rien dit. Tout à coup, elle s'écria violemment « J'aime mieux mourir !» Son accent était réellement effrayant. Elle contemplait le salon d'un air morne qui me fit trembler. « Oh, Joseph » dit-elle d'une voix douloureuse. « Ce que tu m'écrivais est donc vrai? Nous voilà seuls, quoique ensemble ?» Je souffrais le martyre. « Plus de baisers? Plus de caresses ?» ajouta-t-elle en sanglotant. « Nous recueillons, m'écriai-je, une moisson funeste que notre ignorance a semée. Oh, jour de notre enfance !»« Mais non, dis-je en prenant la main de Mélanie. Quand même nous aurions su la défense. Je crois que nous nous serions aimés. » « Oh oui !» répondit-elle avec un sourire qui perça ses larmes. « Mélanie, lui dis-je, maintenant que tu vois le danger, penses-tu que nous puissions rester ensemble ?»« Ah, Joseph, ne nous séparons jamais !» s'écria-t-elle avec une sauvage énergie. Ce fut la dernière étincelle de l'incendie. Elle retomba sur son fauteuil, je la crus morte. Elle ne bougea plus de cette place jusqu'au soir. Elle ne dit plus un seul mot, ne fit pas un geste. Pendant 15 jours, elle resta dans cette espèce d'aliénation, donnant des marques d'impatience et changeant à vue d'œil. Elle devint pâle, mais ses yeux conservèrent un éclat extraordinaire. La nuit, je l'entendais pleurer, et... cette créature céleste avait soin le jour de me dérober le spectacle de ses larmes. « Joseph, me dit-elle un jour, crois-tu que nous mourrons jeunes ?» Hélas, j'eus dès lors deux chagrins, le sien et le mien. Notre sourire, notre gaieté, s'enfuirent pour ne jamais revenir. La plus profonde mélancolie marqua de sa teinte lugubre tous nos jours, nos instants, nos actions, nos paroles, nos pensées. Et Madame Hamel fut aussi triste que nous. Quel changement! Quelle terrible punition! Et pourquoi? Quel était notre crime? Notre vie devint un combat perpétuel. Malgré la promesse de recueillir ses regards, Mélanie ne put pas plus les dépouiller de leur tendre expression que moi me dispenser de les voir. Tout, jusqu'aux touches de son piano, parlait de sa passion. Car je ne sais comment elle fit pour jeter dans tout ce qu'elle jouait une expression qui me faisait frissonner. Souvent, Mélanie, errante, me rencontrait dans une pièce. Elle venait à moi, et me prenant la main, elle me regardait avec ivresse, puis s'éloignait à grands pas. Lorsque nous sortions, elle s'appuyait sur mon bras. Je tâchais de l'encourager en lui disant « Ma sœur, nous jouissons de tout ce qui constitue le bonheur sur la terre. Nous nous aimons de l'âme, nous nous voyons, nous sommes sûrs l'un de l'autre de notre fidélité, et chacun de nous, en regardant dans son cœur, y trouve les pensées de l'autre. Nous avons ce qu'il y a de plus beau dans les sentiments humains. Pourquoi nous désoler ?»« Mon frère, le mal est fait. Les discours n'y peuvent plus rien. » Elle disait vrai, je le sentais moi-même. « Joseph, continuait-elle, tu es mon plus ferme appui. Avec un homme sans vertu, j'aurais déjà succombé. Ah, je dois me féliciter de t'avoir pour guide. » Voyant que notre passion s'exaltait sans cesse dans la profonde solitude où nous étions, je résolus de jeter ma sœur dans les distractions du monde. Ici, je ferai observer que par un singulier bonheur, nous nous trouvions riches. À mon arrivée à Paris, j'avais laissé nos 200 000 francs aux mains de notre banquier, qui me proposa d'entrer dans une belle entreprise. Elle réussit si bien que dans l'espace de 4 années, nos fonds triplèrent, et une faible partie des intérêts suffisait grandement à notre dépense, sagement dirigée par Madame Hamel. Alors, je pris un équipage, et occupant ma sœur des soins d'une toilette recherchée, je la menai d'abord chez notre banquier, dont le salon nous fournit une foule de relations. Les bals, les invitations, les spectacles se succédèrent. Ma sœur obtint par sa beauté un triomphe éclatant. Tous les hommages arrivèrent à ses pieds. Mon amour-propre fut flatté de voir que ces adorations ressemblèrent aux couronnes que l'on dédie à la statue d'une déesse. Les fleurs meurent sur le marbre impassible. Ma sœur porta partout une mélancolie profonde, et dans les plus beaux salons, lorsque les yeux de toute une assemblée se portaient sur elle, elle ne regardait qu'un seul homme assis dans un coin. Et cet homme, morne et rêveur, ne contemplait qu'elle. Le monde était, pour nous, un vaste désert. Notre seule passion le remplissait. Et nous n'avions quitté notre solitude que pour en trouver une autre, qui nous faisait regretter la première. Il me souviendra toujours de la dernière fête où nous parûmes. Mélanie, couronnée de roses, réunissant sur elle toutes les perfections de ses rivales, sans avoir leurs défauts, excita un murmure d'étonnement. Comme elle n'avait aucune coquetterie, aucune fierté, elle plut même aux femmes. À la lueur de 100 bougies, au milieu de cette éblouissante réunion, elle vint me retrouver dans l'angle où j'étais confinée et où je jouissais en silence. « Joseph, me dit-elle, sortons, le monde me fatigue. J'aime mieux te voir un quart d'heure que d'être parmi cette foule. » Nous montâmes en voiture pour retourner à notre hôtel. La voluptueuse toilette qui rendait ma sœur si séduisante, l'aspect admirable sous lequel je venais de la voir, avait rallumé tous mes feux, embrasé toutes mes veines. J'étais dans un accès de fureur concentrée. Je me contenais lorsqu'elle vint me parler. Dans la voiture, elle pencha sa tête endolorie sur mon épaule et me dit « Joseph, je t'aime !» L'accent de ses paroles ressemblait au dernier cri d'un mourant. Il m'avertit que ma sœur ressentait tout ce que j'éprouvais moi-même. Je tremblais. Que de choses dans cette phrase suppliante de Mélanie. Alors, le bout de son gant blanc effleura ma main, et je me rappelle que cette dernière circonstance mit le comble à mon trouble. « Mélanie, je meurs !» lui répondis-je. « Eh bien, mourons !» dit-elle. Et elle m'embrassa avec ivresse pour la première fois depuis 3 mois. Le lendemain, je jugeai que je n'avais pas un moment à perdre, qu'il fallait me séparer de ma sœur, car sa passion et la mienne ne pouvaient plus être gouvernées. Notre raison s'éteignait chaque jour, et notre amour devenait tel que, si nous eussions été criminels, je crois dans la sincérité de mon cœur que l'Éternel nous eût absous. C'est alors qu'après bien des combats, un digne ecclésiastique que je consultais me dit que pour terminer une lutte où nous succomberions, il fallait mettre entre Mélanie et moi une barrière insurmontable. Il me donna le conseil de me faire prêtre. Cette idée allait à mon exaltation naturelle, et je la méditai longtemps. Voyant enfin chaque jour rendre le combat plus rude et la victoire plus incertaine, je regardais le sein de l'Église comme un asile sûr et sacré. « Oui, me dis-je un jour, ayons le courage de fuir Mélanie, mais en même temps, séparons-nous de toute l'humanité. Cherchons quelque endroit écarté, où, dans le plus modeste poste qui soit dans le sacerdoce, je puisse achever une vie dont j'entrevois le terme. Rendons-nous utiles au monde. Je n'ai plus besoin de rien ici-bas. La terre ne m'offre plus rien qui me touche, puisque Mélanie m'est enlevée. » Cependant, on ne forme pas le projet de se séparer de tout ce qui nous attache à la vie sans faire des réflexions. Et ma mélancolie devint encore plus sombre. Renfermée dans mon cabinet, méditant sans cesse sur les avis que m'avait donnés mon confesseur, je ne vis plus Mélanie. Lorsque, suppliante et pleurante, elle voulait entrer, je refusais de la voir. Cette barbarie me fendait le cœur. Mais, devenue cruelle, je tâchais de m'endurcir par ses petits traits. Je me préparais à porter le dernier coup. Nos adieux m'effrayaient. Comment ma sœur me laisserait-elle partir? Voulant la garantir d'elle-même, je résolus de lui cacher ma décision et le lieu de ma retraite. Les plus cruels tyrans n'ont pas eu plus de cruauté que moi. Hélas, Mélanie, vis-tu encore? Je n'ose porter ma pensée sur le pays que tu habites. Encore des larmes et des lignes tellement barbouillées que je ne puis pas les lire, s'écria Marguerite. Eh bien, répondit le curé, ce sont des redoublements de douleur pour moi. Je souffre, Marguerite. Donne-moi un verre de vin de Malaga. Quoiqu'à brebis tondue, Dieu mesure le vent, les pauvres enfants en ont eu plus qu'ils n'en pouvaient supporter. Et comme il n'y a si bon cheval qui ne bronche, le ciel m'est témoin que je les aurais absous de leurs péchés s'ils eussent succombé. Sûr que Dieu, par la suite, aurait ratifié mon absolution. Chapitre 13. Lorsque le bon curé eut pris son verre de Malaga, il dit à sa gouvernante « Achève vite, car cela m'étouffe, et je ne pourrai pas dormir. » Marguerite reprit le manuscrit et continua la lecture. Quand j'eus irrévocablement arrêté ma destinée, je sortis de ma retraite. Et Mélanie vit, à l'altération de mes traits, qu'un nouveau chagrin m'accablait. Elle souffrit en silence et respecta mon secret, mais elle me fit bien voir qu'elle partageait ma douleur. Ses yeux, qui m'interrogeaient sans cesse, semblaient aller jusqu'au fond de mon âme. Ses paroles suppliantes étaient une musique digne du ciel. Je fus inébranlable. En parcourant la liste des diocèses, j'aperçus mon nom à l'évêché d'A. Le voisinage de cette ville, avec la forêt des Ardennes, mais principalement le nom de monsieur de Saint-André, me déterminèrent. Je passai chez mon banquier, je pris 50 000 francs que je déposai chez un notaire inconnu, afin que si Mélanie faisait des recherches, elle ne pût rien découvrir. J'arrangeai toutes nos affaires et je liquidai notre fortune, que je plaçai sur le grand livre au nom de Mélanie. Lorsque les grands intérêts furent traités, je m'occupai des plus petites choses, pour laisser ma sœur dans l'impossibilité de se douter de mon départ et de suivre mes traces. J'achetai une chaise de poste, du linge, j'envoyai d'avance mon argent à A. Bientôt et trop tôt, tout fut prêt. Je fixai le jour fatal. Cette activité inusitée avait singulièrement alarmé Mélanie, et chaque fois que je rentrais ou que je sortais, elle m'épiait avec la douce inquiétude de l'amour. Elle ressemblait à une mère qui veille sur son enfant. Enfin, le jour que j'avais fixé arriva. Dès le matin, j'avais le frisson d'une fièvre violente. « Mon frère, me dit Mélanie, vous êtes malade, qu'avez-vous? Dites-le-moi, Joseph, sinon j'userai de mon droit en t'ordonnant de m'en instruire. » « Ah, ma sœur, tu ne le sauras que trop tôt. Savoure bien cette demi-journée. À 5 heures, nous serons dans les larmes. Hé, Joseph, dit-elle en me regardant d'un air effrayé. « Est-ce qu'il peut y avoir encore des malheurs pour nous? Je n'en devine pas. » « Écoute, Mélanie, l'amour a cela de beau que les plus grands sacrifices ne sont rien lorsqu'ils sont faits pour la personne aimée. Ce sentiment rend léger ce qui est pesant, il rend doux ce qui est amer. Dieu m'est témoin que je donnerais 100 000 fois ma vie plutôt que de te causer la moindre peine. « Joseph, tu n'es plus le même, » dit-elle en me lançant un douloureux regard. « Que signifient ces paroles? Jadis aurais-tu préludé par tant de phrases à ce que tu versais dans le sein d'une... de ta sœur? Ah, Mélanie, que les temps sont changés! Nous étions innocents et nous sommes coupables. Mais tu as raison. Eh bien, sache, Mélanie, que pour assurer ton repos, ton innocence et la mienne, j'ai résolu de t'offrir un sacrifice. « Tu vas mourir ? » s'écria-t-elle. Elle était à 4 pas de moi, le visage contracté et pâle comme la mort, les yeux secs et fixés sur moi. « Non, Mélanie !» Elle respira. « Non. » Et la prenant dans mes bras, je la tirai sur moi. Cette charmante fille, appuyant sa tête échevelée sur mon épaule, versa des larmes amères qui soulagèrent son cœur. Je pleurais aussi. « Ma sœur, lui dis-je, jure-moi que jamais tu n'attenteras à tes jours, que si malheureuse que tu puisses être, tu vivras. » « Oui, répondit-elle avec le sourire d'un ange, mais tant que tu resteras sur la terre. » « Mélanie, c'est bien, car la mort de l'un sera celle de l'autre. Il n'y a là rien que de juste. Maintenant, mets-toi à ton piano. Joue-moi le plus beau de tes morceaux. Fais passer dans ton jeu tout l'amour qui te rend une mortelle et toute la poésie, toute la pureté qui font de toi un ange. Solennisons cette matinée d'automne par les plus douces caresses. Que ces heures s'écoulent suaves, pures. Oublions l'avenir et le passé. Enivrons-nous du présent. » Elle me regarda avec étonnement et, après avoir rêvé pendant un instant, « N'importe, s'écria-t-elle, tu le désires, je veux tout faire pour te plaire. » Elle s'assit alors à son piano et sembla d'abord s'égarer dans des préludes pleins de grâce. L'inspiration qu'elle attendait descendit enfin sur son beau front qui s'illumina tout à coup, et les plus célestes mélodies se déroulèrent sous ses doigts. Enivrée, éperdue, j'avais tout oublié. Quand, s'interrompant tout à coup, elle se jeta dans mes bras en s'écriant « Joseph, j'aime mieux mourir que de rester dans l'incertitude où tu me plonges. » « Mélanie, un seul mot et tu comprendras tout. Mais je ne te crois pas assez de force. Je voudrais... » À ces mots, elle me regarda fixement et me dit « Tu veux me quitter. » Puis elle tomba sur le tapis, sans force et sans vie. Effrayée, je la relevai, et lorsqu'elle eut repris ses sens, elle répéta sans cesse avec l'accent de la folie et du désespoir « Je veux mourir ! Je veux mourir ! Je veux mourir !» Je me jetai à ses genoux, je la pris sur moi, je la réchauffai de mes baisers, je m'efforçai de la consoler. À tout, elle ne répondit que par ces mots 100 fois répétés « Je veux mourir !» Et ses yeux égarés parcouraient l'appartement avec une effroyable vivacité. Alors, la regardant avec une sévérité affectée, « Mélanie, lui dis-je, vous ne m'aimez pas. » Pour toute réponse, elle se tut et vint m'embrasser. Grand Dieu, quel baiser! Ou plutôt, quel discours! Au bout d'une heure, elle fut plus calme, mais en réalité plus abattue. À son aspect, je me disais intérieurement, « Partirai-je? Ne partirai-je pas ?» À chaque fois que je me levais, elle poussait un cri lamentable qui me faisait frémir. Enfin, elle quitta sa place, se dirigea lentement vers la mienne, et se mettant à mes genoux, elle s'écria « Mon frère, je t'en supplie, aie pitié de moi, ne pars pas, tu emportes avec toi ma vie. Nous resterons séparés par des cachots, par des murs de fer, si tu le veux, mais reste. Je saurai que tu respires le même air que moi. » Que tu es à 2 pas de moi, que lorsque je rendrai le dernier soupir, tu n'auras qu'un pas à faire pour le recevoir. Heureuse de t'avouer sans crime que tu fus ma pensée de tous les instants, je bénirai les rigueurs que tu m'imposeras. Mais Joseph, mon seul ami, mon frère, reste, reste, tu es tout pour moi. Eh, malheureuse enfant, répondis-je en repoussant ses mains. « Veux-tu perdre ton âme et perpétuer ton malheur dans l'autre vie? Ne saurais-tu prendre une résolution grande et fière? Non, je ne le puis !» Et me regardant avec des yeux qui me reprochaient ma dureté, « Joseph, si je ne damnais que moi, il y a longtemps que tu serais heureux !» Ah, périsse la vertu, l'honneur! Mélanie, tu l'emportes !» Elle recula de 3 pas. Son regard effrayé me rendit ma raison, mais je sentis qu'il était impossible, plus que jamais, de vivre au milieu de dangers pareils. « Il faut que je parte. » À cette parole, elle me répondit, « Eh bien, s'il n'y a qu'un crime qui puisse te faire rester !» En parlant ainsi, elle s'élança sur moi et m'embrassa par une étreinte pleine de chaleur. « Non, non, adieu, Mélanie !» Et regardant une dernière fois le salon, les tableaux, le piano, les meubles, Je laisse mon âme en ces lieux, lui dis-je, et je m'avançai vers la porte. Mais ma sœur, me tenant étroitement serrée, ne voulait pas se séparer de moi. Elle poussait des cris inarticulés. Il fallut employer la force. Cette violence de ma part mit fin à ses larmes, et elle me regarda en me disant « Oh, Joseph !» Profitant de son étonnement, je m'enfuis. Je l'entendis crier « Et notre adieu ! Je ne t'ai pas vu, barbare ! Notre adieu !» Inquiet, je m'arrêtai dans la cour, et j'aperçus Madame Hamel et tous les gens accourir. « Elle se meurt !» pensai-je. Eh, qu'elle meure, c'est son plus beau moment, je vais la rejoindre. » Je voulais retourner la voir, mais dans cet instant, l'inflexibilité de mon père s'offrit à ma mémoire. Et plus cruel qu'un tigre, j'ouvris la porte et courus à la poste aux chevaux. J'étais égarée, presque en convulsion. L'idée de la mort de la tendre Mélanie me remplissait le cœur d'un froid glacial. Je ne sais comment je me trouvais à 2 lieues de Paris sans avoir encore pu rassembler une idée. Alors, maudissant ma barbarie, je me représentai vivement les derniers moments de ma sœur. « Si elle expire, me disais-je, il faut être indigne du nom d'homme pour la priver du plaisir d'exhaler son dernier soupir sur mes lèvres. » Il était nuit. J'ordonnai au postillon de retourner, feignant d'avoir oublié quelque chose. Je rentrai dans Paris et revins à la maison. Je sautai par-dessus le mur du jardin pour ne pas être aperçu. Je montai l'escalier avec un tremblement convulsif. Je me glissai dans ma chambre et de là au salon. Et sans m'y montrer, je regardai par la porte entr'ouverte ce qui s'y passait. Mélanie, étendue sur un canapé, était contenue par ses femmes. Un médecin examinait avec attention les moindres traits de son visage. Je fis signe à Madame Hamel qui vint me rejoindre. « Eh bien !» lui dis-je. « Ah, mon Joseph, on craint que ta sœur ne soit folle !» Je frissonnais. Elle s'était grillée pendant 10 minutes en se tordant les bras et dans des convulsions affreuses. « Sans adieu, sans un baiser, le monstre !» Enfin, elle vient de s'écrier avec force il y a environ 5 minutes. « Si je le voyais seulement un instant !» Je sens que je me résignerai. » En ce moment, Mélanie, brisant toutes les entraves, secouant toutes ces femmes qui ne purent la retenir, s'écria, en errant dans le salon, échevelée, furieuse, « Il est ici ! Il est ici !» Je me précipitai dans ses bras. « Je t'aurai donc revue, » dit-elle. Hélas, son sourire n'avait déjà plus cette douceur d'ange. « Mélanie, » lui répondis-je, « Je suis revenue te dire adieu. »« J'en étais sûre !» s'écria-t-elle. « Je te connaissais !» Puis elle m'embrassa avec délire. « Non, je n'ai pas la force d'achever. »